Qu'est-ce qui se trame ? La série documentaire sur la ville, réalisée par Violaine Jolivet. 3 épisodes sur le terrain, parce que la géographie, ça se fait d'abord dans la rue. Épisode 2, les étudiants internationaux au temps de la Covid, des mobilités sous contrainte. Réalisé par Enzo Boulot, Kelly Isabelle Brien, Christopher Massé et Alex Turcotte-Otis.
Current coronavirus pandemic. Comment est la situation allí para los estudiantes?
Que vous ayez choisi Québec pour les études.
We will be talking about the restrictions eased by Canadian government.
El gobierno.
There are international students after immigration announced plans and visas for students taking online.
Québec dynamique.
La fermeture des frontières. L'accumulation des sentiments d'incertitude par ces changements dans nos pratiques spatiales quotidiennes entraîne de nouvelles expériences de mobilité et d'immobilité. À travers le vécu et les perceptions d'étudiants internationaux à Montréal, il est intéressant d'étudier l'impact de la pandémie sur ces derniers.
En fait, je m'appelle Islem Benjavola, doctorant en études urbaines à l'INRS, l'UCS. Le centre-ville de Montréal en voit et en entend plus de 100 langues. Pourquoi ? Parce qu'il y a de partout, et il y a 2 universités au centre-ville, McGill, Concordia, en plus de l'INRS, et en plus de l'UQAM qui n'est pas loin, de l'UDM qui n'est pas aussi loin. Donc, quand c'est le week-end par exemple, et que les gens descendent au centre-ville, on entend plus de 100 langues de jeunes, et ce sont tous des étudiants internationaux. On peut voir en fait l'effet de la pandémie sur le centre-ville de Montréal, durant le début du déconfinement ou la fin du confinement du mois de printemps.
Sandra Gassana, employée du Conseil canadien pour les réfugiés et directrice de la politique en matière d'établissement.
Alors, mobilité migratoire, pour moi, je le verrais comme les déplacements de populations, donc de familles, d'individus, d'un point A à un point B. Mais maintenant, pour des raisons différentes. Donc, certains, c'est parce que ils veulent aller déjà déménager, le souhait de changer d'endroit. Mais il y en a d'autres qui vont soit pour les études, soit pour s'installer dans un nouveau pays, où il y a des raisons justement dans le pays d'origine qui les poussent à vouloir partir, que ce soit la guerre, que ce soit leur insécurité personnelle, etc.
Je m'appelle Tristan Delaguila, j'ai 19 ans, bientôt 20 ans. Je suis né en France, à Nice, et après j'ai déménagé aux US à Boston. Là, je suis au HEC en deuxième année. J'ai pas eu de complications quand je suis rentré cet été à Boston parce que je suis américain. J'ai la nationalité américaine, donc pour moi c'est tranquille. Mais après, pour revenir sur le Canada, ça c'est un peu plus compliqué. Parce que j'ai le permis d'études, mais la douane, parfois ils autorisaient pas les étudiants étrangers.
Ok, ben moi c'est Romain de Bourges, donc je suis français. Je viens à peu près de, on va dire, Bordeaux. Donc je suis à HEC Montréal depuis, ça va être ma troisième année. Il m'en reste une et demie à faire, quoi. Ici en août, à part du coup, était un peu le stress d'avoir les bons papiers, tout ça. J'ai fait le test Covid avant de venir qui était négatif. Mais en fait, avoir préparé tout ça n'a servi à quasiment rien, à part être rassuré, vu qu'une fois sur place à la douane, j'ai juste montré mon passeport et mon permis d'études et c'est tout. Et c'est passé.
Chaque cas de situation de migration étudiante est unique. Pour l'un venant de tel pays, ça se passera super bien. Mais peut-être que pour un autre, ça sera plus compliqué, voire impossible.
Certains étudiants, ils paraissent même en transit. Donc, ils venaient d'un... Donc, avant d'arriver à Montréal, ils devaient passer par un autre pays. Là-bas même, ils se faisaient arrêter. Ils disaient non, vous ne pouvez pas embarquer pour Montréal parce que ça. T'es arrivé, mais regardez, le site web dit ça, nanana. Ils disent non, nous, ce n'est pas ce qu'on nous a dit. Donc, il y a des billets d'avion qui ont été perdus. Il y a des frustrations.
On peut parler du mouvement migratoire au Québec par rapport au Canada, mais par rapport au monde, parce que c'est une province vraiment séparée par rapport aux lois qui ont en relation avec les étudiants internationaux. Il y a une certaine concurrence par rapport à l'accueil et comment attirer les étudiants internationaux dans le monde, pour plusieurs raisons. Et il y a une certaine concurrence aussi au Canada, pas entre les provinces. Et là, le Québec s'inscrit en troisième position, malheureusement. Mais je m'attends à ce qu'elle descende encore dans encore un petit peu, après les changements qui ont eu lieu dans la loi des migratoires en fait au Québec. On peut pas l'expliquer, on peut pas expliquer un mouvement migratoire par rapport à une seule province ou par rapport à un seul pays, parce que ça s'inscrit dans un mouvement migratoire international, et surtout quand on parle des étudiants internationaux. Avant, les étudiants internationaux, c'était pour remplir les bancs des universités du Nord, qui n'étaient pas tellement remplis, ou pour élever le niveau des universités. Et il y avait une certaine différence entre les étudiants internationaux du Nord et les étudiants internationaux du Sud.
Oumou Touré, je viens du Sénégal. Je suis étudiante à l'Université de Montréal. J'ai fait un bac par cumul en géographie et avec une mineure en urbanisme. J'ai arrêté de voyager parce que j'ai arrêté de travailler temporairement. Et tous mes déplacements que je faisais pour aller faire mon épicerie, tout ça, je préférais marcher que de prendre les transports en commun. Donc, je ne rentrais plus dans le métro, je ne fréquentais plus les bus. Je pense que ça a duré un bon petit 2 mois avant que je recommence à fréquenter les transports en commun. Mais je n'avais même pas de renouvellement de ma carte de transport.
Avant, on pouvait se balader au centre-ville sans se sentir étranger. Ce n'est plus le cas. Tu ne peux plus, en fait, en tant qu'étudiant ou non, se balader dans le centre-ville sans qu'on te regarde, sans qu'on se demande qui tu es. Parce que, tout simplement, il n'y a pas cette mobilité-là qu'il y avait avant. Et on avait un certain, en fait... tout le temps, il y avait des étrangers qui venaient, qui partaient du centre-ville. Parce que, tout simplement, il y a beaucoup d'étudiants internationaux et des universités dans cette partie-là de la ville. Et donc, l'effet, on le voit déjà. Ça commence déjà à se sentir dans les espaces urbains, et dans les loyers, et dans les différents emplois qu'on voit, l'emploi qui occupait des étudiants avant, qu'on voit surtout défiler tout le temps, on cherche des commis, on cherche des boulangers, on cherche des caissiers, ce sont les emplois d'étudiants.
Le Covid, quand il est arrivé, ça fait peur, donc j'avais pas envie de l'attraper là. Donc c'est moi qui ai arrêté parce qu'ils n'avaient pas pris, moi je trouve qu'ils n'avaient pas pris les dispositions nécessaires pour les travailleurs dans le magasin. Donc moi, j'ai arrêté de travailler jusqu'à ce qu'ils prennent des dispositions.
Alors c'est vrai, cette image-là de l'étudiant international égale un étudiant assez aisé, etc. Vraiment, on s'est rendu compte à quel point c'était complètement biaisé. Oui, il y a une catégorie d'étudiants aisés, mais c'est pas tous. Et c'est pas à cause d'une petite minorité ou bien de... Ben, je ne sais même pas les données, hein, je ne pourrais pas te dire combien sont aisés. Là, mais ce n'est pas à cause de cette catégorie d'aisés qu'il faut sous-estimer ceux qui ont vraiment besoin. Et oui, beaucoup travaillent énormément. Certains, ils dépassent des 20 heures, je suis sûre. Il y a beaucoup de travail au noir, forcément. Il faut qu'ils paient des loyers. On sait que les loyers à Montréal sont plus... c'est pas donné. Donc, voilà. Donc, je retrouve, c'est des gens vulnérables. C'est pour ça que nous, on les met dans la catégorie aussi de population vulnérable.
Par rapport aux universités, le plus important en fait gain pour les universités, c'est l'argent, c'est le capital économique. Comme je viens de vous dire, les frais de scolarité pour les étudiants internationaux sont excessivement élevés, au Canada surtout.
Par exemple, nous, la situation ma situation, c'est que je pense que si les cours sont en ligne, je comprends, je sais pas comment est-ce que la rémunération des employés de l'université, tout ce qui est administratif, comment ça se passe. Mais on n'utilise plus tellement les locaux de l'université. Donc, je pense qu'ils auraient pu faire un effort par rapport à ça pour réduire les frais scolaires, les factures, pour tout le monde, on va dire. Mais nous, étudiants étrangers, qui, par exemple, un cours, je ne sais pas pour les autres, mais si un cours peut coûter 2 000 $, donc à cause de frais administratifs, à cause de frais d'utilisation de certains services, donc, je pense qu'ils auraient pu faire peut-être une meilleure adaptation par rapport à ça, réduire les frais vu qu'on travaille de la maison.
Mais HEC, il s'est très vite adapté. Tout de suite, ils ont mis en place les cours en ligne. Ils ont aussi de suite annoncé que ces cours en ligne allaient être maintenus pour l'été et l'automne. Donc quand même, il y a une anticipation assez longue, on va dire, du fait de projeter déjà les cours en ligne.
Après les efforts soutenus de la population afin de réduire le taux de contagion suite à la première vague de la Covid-19, le Québec n'a pas pu échapper à un deuxième confinement. Un confinement qui est plus souple que le premier imposé au printemps 2020, qui nous permet de retrouver un certain mode de vie, dit normal ou presque. Les étudiants nous partagent leur vécu face à ces deux situations.
Moi, je dirais qu'au début du confinement, en mars, j'avais pas mal d'anxiété parce que bon, j'avais le problème de l'appendicite. Et pendant quelques mois, ça m'a fait de l'anxiété un peu. Mais là, en ce moment, c'est vite tranquille. Toujours la motivation, ça va.
Le premier confinement, c'était vraiment un peu extrême. J'ai l'impression, enfin, on nous avait annoncé ça d'une manière un peu inattendue. Donc, il fallait s'adapter comme sur le coup. Donc, la session... J'ai envie de dire que c'était un peu la catastrophe.
Après, je suis resté chez moi pendant un mois et demi, deux mois, là, à rien faire. Et après, là, en ce moment, bon, moi, personnellement, j'ai déjà eu le Covid. Et on est sorti, on continue à sortir, mais bon, dès que j'avais le Covid, je suis resté confiné. Et là, je continue à sortir, j'essaie de profiter un peu de la vie parce que bon, là, je suis en deuxième année universitaire et c'est le moment où aller pour en profiter, max.
Le second confinement, ça va parce qu'il n'est pas aussi restrictif que le premier. Parce que là, on peut, comme il y a plein de dispositions qui sont prises, tout n'est pas fermé, comme c'est pas radical. Là, au moins, tu as la possibilité de faire. Il y a quelques institutions qui sont ouvertes. Déjà, les services sont ouverts, donc t'es sûr de pouvoir accéder. À certains services si jamais tu en as besoin, alors qu'avant dès que tu voulais accéder à un service, enfin c'était un peu plus compliqué que ça, donc là c'est beaucoup moins stressant, je trouve.
Et il y a aussi l'effet très important, c'est l'effet temps. Ça fait combien de temps depuis qu'il est ici? Parce que si quelqu'un par exemple qui est ici depuis quelques mois, il a réussi à avoir un certain réseau qui va lui permettre en fait de ne pas vivre un isolement. Mais si la personne, elle est venue, par exemple, au mois de janvier et la pandémie a eu lieu au mois de mars, il va se sentir très seul. Et le fait qu'il va se sentir très seul pendant toute cette période-là va forcément, en fait, affecter le choix qu'il va faire après la fin des études. Et même, en fait, avant, si on veut dire, il était toujours en lien avec les étudiants avec lesquels il était dans le bureau, dans le laboratoire, dans la salle de cours. Là, il est en lien avec eux juste virtuellement. Il ne peut pas construire ce lien-là. Et donc, en fait, il peut se sentir en isolement. Il peut ne pas avoir l'aide, nécessaire. Et donc, ça peut affecter directement son cheminement académique ou pas. Et là, en fait, ou pas. Parce qu'en fait, il a suggéré son stress, son anxiété. Et il avait un réseau prémigratoire ou non. Donc, en fait, la question qui se pose, elle est vraiment très en fait, individualiste, si on veut dire. Et ça change d'une personne à une autre.
Donc les moyens que j'utilise avec communiquer avec ma famille, c'est principalement Messenger, un appel vidéo. Et ces appels n'ont aucunement changé avec ou sans la Covid.
J'ai rapidement perdu espoir là pour retourner voir ma famille, mes parents. Donc c'est ça, mon premier sentiment, comme si tu me demandes, c'est vraiment je me suis sentie coincée ici. Je parle avec mes parents vraiment très souvent dans la semaine. On s'appelle un peu plus, peut-être maintenant, on va essayer plus de s'appeler pour se voir. Moi, mes parents, mon père, c'est un senior. Ça l'a rendu un peu plus sensible, la situation. J'essaie de l'appeler un peu plus pour lui montrer que bon, ça va, que tout va bien de mon côté. Et puis, lui aussi, il peut le rassurer un peu.
On se parle beaucoup en texte-message, là, en ce moment. Mais il m'appelle deux ou trois fois par semaine à peu près, pour voir comment je suis, pour les nouvelles et tout ça. Parce que d'habitude, mes parents, ils viennent beaucoup ici au Canada en voiture, après la frontière, mais là, ils ne peuvent pas.
Je crois qu'ils vont avoir plus de mobilité dans le programme d'échange parce que tous les étudiants que voulaient faire un programme d'échange n'ont pas pu le faire. Donc, ils s'attendent tous à ce que la pandémie s'arrête et les aéroports ouvrent et ils partent faire leur programme d'échange.